Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 24 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Astien et je suis accompagné de Beno FX.
Salut Astien,
bonjour à Beno FX
et à tous.
Et aujourd'hui nous accueillons Okaluda avec Christophe et Miguel au micro. Bonjour.
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 Comment ça va?
Bah très bien.
Ça se passe bien?
Ah, comme un dimanche à Cannes quoi. C'est très très bien.
Fatigué, c'est ça que ça veut dire?
Non, même pas.
On manque un peu de café peut-être, mais.
Non, ouais, ça va, ça va. Ça va encore.
On reparlera pas des 3C, c'était hors enregistrement.
On a une petite scène question à vous poser avant de commencer cette interview. Pour vous, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
La réponse est unanime pour nous.
Ah, c'est jeu. C'est clairement jeu, ouais.
C'est clairement jeu.
Clairement jeu.
Vous n'êtes pas très cinéphile?
Si, carrément. Moi, je suis un grand fan du cinéma, mais je suis pas un fan de Cannes.
Et puis, on passe moins de temps au palais, en fait, quand c'est pour le cinéma. Hein.
Ouais. J'ai rarement monté les marches avec le tapis rouge, en fait, quand c'est le festival de Cannes, le cinéma.
Alors que là, au jeu, on peut les monter quand on veut.
Bah, toute la journée, je fais que ça, en fait. D'ailleurs, je fais les tests proto sur les marches rouges. Enfin, tu vois, c'est la starification, à fond.
C'est plutôt bière ou champagne?
C'est carrément bière.
C'est carrément bière, mais comme ma femme, c'est plutôt champagne, il faut aussi l'accompagner, donc, mais c'est plutôt bière.
C'est plutôt camping ou martinez?
Non, mais clairement, ça, la question se pose même pas.
Si les gens voient nos têtes, je pense qu'ils vont dire camping, voire même sans l'attente, quoi.
Oui, voilà, voire même sans l'attente. Ou alors, tu sais, squat dans une cité universitaire, assis dans la même pièce. Tu te rappelles des chambres universitaires
du Crous.
Voilà, on est 6 là-dedans. Bon, c'est convivial, avec 2 femmes et 4 hommes. Bon, après, ce qui se passe à Cannes, comme dirait Miguel.
Reste à Cannes.
C'est plutôt off ou dodo, du coup?
C'est pas cette dodo.
Alors, je serai à fond pour dire, bien sûr, c'est dodo pour les autres et je vais au off, oui.
D'où la bière.
D'où la bière et puis d'où que Miguel est matinal.
Oui, et donc, je prends de la limonade au off. C'est peut-être pour ça.
C'est plutôt salon ou festival pour vous?
Ah, intéressant. Festival, contact direct public, beaucoup plus facile. Immédiat, enfin je veux dire on peut avoir du temps pour le public vraiment. Sur les salons t'as tout de suite le milieu professionnel qui est présent, donc du coup nous on est plus sollicité sur le plan professionnel, donc moins disponible pour le public, donc c'est bon, les animateurs sont disponibles pour le public mais pas nous directement, et on fait aussi ce métier entre guillemets par passion mais par le goût du contact du public aussi.
Moi, j'aurais dit festilon, tu vois. Ça marche en plus pour plein de choses, quoi.
Et dernière question, c'est plutôt pro ou perso?
Ben là aussi, c'est pareil, c'est un mélange des deux, parce que au Caluda, en fait, on fait ça sur notre temps libre, hein, donc on a tous un métier à côté. Donc c'est pas vraiment pro, c'est un peu loisir, mais on essaye de s'orienter à faire des choses pro, tout en restant des joueurs, quoi. Donc
il faut pas coutume, je vais te contredire, donc ça on a l'habitude.
Ah oui, voilà.
Voilà, moi je dirais on est très pro.
Ah oui,
parce que comme on vient d'un milieu pro, enfin ouais. Non, je me suis mal exprimé, je viens de milieux complètement différents du monde du jeu et qui sont des milieux professionnels rodés depuis 100 ans, de 1000 ans même, voire. Donc effectivement il y a un côté très professionnel, donc nous on arrive avec cette expérience là dans un milieu effectivement qui était un milieu passionné encore 10 ans. Donc la notion professionnelle était toujours très souple, et donc on a été très surpris par certains réflexes, plutôt l'absence de certains réflexes, mais c'est super fun, on s'éclate dans ce sens-là. Mais oui, on a amené notre côté pro. Par contre, effectivement, c'est perso, comme disait Miguel très justement, quoi. C'est en vivre, on verra. C'est le public qui décidera, parce que c'est difficile. Bah,
ça fait une très bonne transition pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est Okaluda et vous présentez-vous aussi, comment vous en êtes arrivé à créer Okaluda?
Ah, je le pitch ou tu le pitches?
Ah, oh, tu peux le pitcher.
Je le pitch. En fait, l'auteur de Samsara, Silas, donc, est venu, habite dans notre région, est venu au club de jeu que j'anime sur la région, et nous a montré ses prototypes. Et je lui dis, mais what the fuck, c'est trop bien tes jeux, pourquoi c'est pas édité? Surtout celui-là, il a eu Samsara, il a eu le Dix d'or et les fous du jeu de Rouen. Et il me dit, bah, c'est compliqué, les éditeurs, ils disent toujours qu'ils ont pas le temps, ils disent toujours que ceci, que cela. Bah, je dis, bah, tu veux qu'on te file un coup de main pour faire un petit ulule, quoi, puisque comme, voilà, pour, ouais. J'avais pas de contact dans leur milieu, ni rien. Donc, c'était, voilà, on t'aide à faire un petit ulule, et puis peut-être avec peu de chance, tu décolles, et du coup, t'es connu, et du coup, un éditeur te repère, et puis, etc., etc. Et donc, c'est parti comme ça. Du coup, on s'est dit, bah, pour faire un ulule, faut quand même que le public soit au courant. Et donc, on est allé sur des festivals de suite. Et l'œil de Moscou à côté là, ou la main de Moscou, je sais pas si on met tout, mais il est trop fort. Et donc on est allé tout de suite sur les festivals avec son prototype, tout moche, et on a eu un super retour du public. On a découvert un milieu, donc comme je disais tout à l'heure, professionnel, de passionné. Tu peux laisser ton portable sur la table, tu reviens une heure après, il y a encore. Donc c'est une ambiance vraiment bon enfant. Et mm-hmm. On s'est dit, oh, mais what the fuck, on veut travailler dans ce milieu-là. Tu vois, bon, on savait très bien qu'on n'y vivrait pas, mais on a conservé nos boulots, donc on disait, mais et voilà, et c'est parti comme ça, en fait, en se disant, bah, au final, on veut faire d'autres jeux que juste ce jeu-là. Donc c'est devenu une maison d'édition tout de suite. Enfin, c'est, on a fait tout de suite les papiers. Et donc le Ulule est devenu un Kickstart. Le projet est devenu différent puisqu'on voulait que le jeu soit aussi en boutique et que avoir d'autres jeux à développer. Et donc voilà, c'est parti comme ça.
Vous étiez du coup des gros joueurs déjà avant de vous lancer. C'est quelque chose que vous connaissiez bien, le jeu de société, que vous pratiquiez depuis longtemps.
Oui, j'ai toujours été joueur, jeu de rôle, avec la petite boîte rouge, tu sais, avec un petit dragon dessus, dès 14 ans. Donc voilà, merci Gary. Et après jeu de société, bien sûr. Et donc j'ai créé un club de jeux. Voilà. Et Miguel, il dira lui-même. Hein,
Oui, je sais parler aussi. Ouais. Oui, donc, pareil, moi, je viens plutôt de la mouvance à l'origine jeu de rôle sur table, comme Christophe aussi. Ouais. Après, passé aux grandeurs nature, et puis après, je suis passé aux jeux de société. J'ai fait de l'animation pour différentes structures, à Cannes ou ailleurs. Donc, je connaissais un peu le milieu. Et puis, comme disait Christophe, là, pour en venir à la création d'Okaluda, c'est vraiment un mode, un peu un pari entre trois cacahuètes et donc plutôt bière que champagne, d'ailleurs, sur le coup. Là. Et c'est parti comme ça, en fait, en mode, allez, chiche, on y va, quoi. Et c'est vraiment le cheminement qui nous a amené à se dire, oh, si on y arrive pas trop mal pour un, pourquoi pas continuer. Donc, on continue.
Il faudrait pas oublier une chose, effectivement, qui n'est pas présente parce qu'elle est très discrète, Mireille.
Il va pas aimer la chose. Une chose, en fait. Chose. Ouais. Il va pas aimer le une chose, mais c'est pas grave, je lui dirai pas.
Non, mais c'est super important parce que c'est vraiment une des pierres angulaires, puisqu'on est trois, donc forcément, on est un des trois, on va dire. Si t'enlèves une face, ça marche plus. Effectivement, elle était pas du tout joueuse. Même pas du Monopoly en plus, tu vois vraiment. Et en fait, donc elle a dit tout de suite, vous voulez un coup de main là sur, je suis infographiste dans une imprimerie, ça peut-être servir. Ah bah carrément, vas-y. Et donc elle s'est entre guillemets venue nous proposer ses services, et en fait on a tout de suite dit, mais on peut pas faire sans toi, cocotte, donc il faut que tu prennes des parts. Ah bon, non, mais je veux pas vous embêter. non sûr. Mais vas-y, prends des parts. Et donc voilà, et c'est vraiment super important parce qu'elle fait un boulot de titan, quoi. C'est voilà, sans elle, on aurait rien fait. Voilà, c'est vraiment super, quoi. Voilà.
Donc, comme tu disais tout à l'heure, là, vous vous lancez, vous bossez encore à côté, c'est ça, c'est vraiment, vous essayez de...
Ah oui, c'est ça, on fait ça sur
le temps libre, quoi.
Sur le temps libre. Mmh. Et des fois, pas que sur le temps libre, mais tant que ça se voit pas, chez nos patrons, c'est bon, quoi.
Et vous êtes lancé, justement, avec, quelque chose qui est peut-être, pas toujours facile à tenir. Vous avez une philosophie bon karma. Vous pouvez en parler.
Moi, j'ai vu sur votre site 100% Périgourdine, 100% bon karma.
Oui, la première est plus facile à tenir que la seconde. Mais en fait, c'est simple. C'est que, d'ailleurs, vous le voyez, hein, on se connaît pas, mais on est plutôt souriant, bon esprit, blague souvent moisie, mais enfin, on est dans l'échange.
C'est l'intention.
Voilà, on est dans l'échange, etc. Et surtout, Chris le dira encore mieux que nous, mais enfin que moi, pardon. Mais quand à un moment donné on a un obstacle, on cherche pas à forcer, on se dit que c'est comme ça. Et puis souvent, il y a une porte qui s'ouvre à côté, on passe par la porte. C'est une grosse porte parce que le périgourdin mange bien. donc voilà, on se
laisse porter en fait par la vague. Enfin, pour nous, le karma, c'est ça. En fait, c'est vraiment le surfeur. Si tu attends la vague, il va rien se passer. Si tu cherches une vague, tu vas pas la trouver. Et donc c'est cet entre-deux-là où tu passes d'une vague à l'autre, en fait. Et quand il y a pas de vague, il y a pas de vague. Tu mets pas un martel en tête, en fait. Hein. Et donc on s'est retrouvé souvent bloqué, lancé dans une direction, puis un gros mur, déception, trois jours de déprime, tu sais. Mais enfin après on se dit, mais non, c'est comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui devait pas se faire, en fait. Et souvent derrière, on a le truc génial. par exemple, tu nous as dit tout à l'heure, bah, il n'y avait pas de rendez-vous, quoi, pour, ouais, pour venir faire votre podcast. Et puis là, il y a un créneau qui se libère, c'est pour vous. Et voilà, nous, c'est comme ça. Voilà,
c'est le karma, quoi.
C'est le karma. C'est le karma.
Voilà, ça s'entretient.
Quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave, c'est la vie.
Et puis on est relativement sympa aussi, quand même. Oui. Donc ça entretient le truc.
On vous a pas encore mangé tous les bonbons, enfin, tu vois.
J'ai pas pris un bonbon, ils ont mis devant moi. Là,
ça c'est vraiment vicieux. Quand même. Puis en plus ça doit faire du bruit dans le micro, tu vois.
Ouais. C'est pour ça quand c'est deux, c'est plus facile. Il y en a un qui mange, l'autre qui parle. Et... faut réussir à s'attendre. Faut essayer de pas trop mâcher devant le micro.
Je vais mâcher dans le micro, moi je te le dis.
Ça fait de l'ASMR après. Il y en a qui apprécient ce genre de choses. Donc premier jeu, Samsara. Vous pouvez nous en parler un peu, pitcher le jeu peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas.
Miguel est un super animateur parce que c'est un professionnel d'animation, mais je vais faire le pitch parce que c'est je suis un pro du pitch. Samsara, en fait, chez les Tibétains, c'est le... Ok, moi, tu fous pas de ma gueule, Miguel, c'est bon. Samsara, chez les Tibétains, c'est la roue de la vie où tu vas vivre plusieurs expériences de vie, tu vas mourir, te réincarner, recommencer jusqu'à atteindre le nirvana. Mm-hmm. Ok? C'est un autre nom, en fait, en réel, mais c'est imprononçable. Je ne me tromperai pas. Et donc en fait l'idée du jeu c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas avoir un personnage bien sûr imaginaire, on est dans le monde ludique, donc tu vas jouer un personnage imaginaire du style le singe businessman, le cobra scientifique, le tigre moine par exemple, et tu vas te déplacer en fait sur la roue de la vie, tu vas récupérer des cartes expérience qui vont te permettre d'acheter des amulettes d'éternité, ces amulettes quand tu en as acheté la cinquième amulette, tu atteins le nirvana, donc tu gagnes la partie. Ces cartes aussi ont la fonction d'améliorer ton jeu de cartes, puisque c'est un jeu de deck building. Donc tu vas pouvoir, grâce aux cartes, améliorer ton jeu, récupérer des cartes, défausser des cartes, etc., etc. Et à la fois acheter les amulettes. Donc il y a la subtilité du deck building qui est intéressant mécaniquement et pour les joueurs. Et en même temps, c'est une course. Du coup, le non-joueur, enfin en tout cas le casual comme on dit, ouais, va s'y retrouver parce que lui, il va chercher directement l'objectif. Le deck builder va chercher le deck building. Et du coup, ça s'équilibre immédiatement en fin de partie. Souvent, le casual gagne, ce qui est intéressant. Et le deck builder sur la deuxième partie se fait pas avoir. Mais voilà, c'est très, et donc du coup, ça apprend aussi le deck building aux joueurs moins mécaniques, quoi. Voilà. Mmh,
c'est vrai qu'il est très accessible là-dessus, mais même j'ai trouvé les joueurs de deck building qui ont l'habitude de ce genre de jeu avec votre système de roues où en fait, il va falloir rendre des cartes au plateau. Uh-huh. Moi, ça en a beaucoup perturbé à qui j'ai présenté le jeu, et à chaque fois, ils m'ont dit mais les cartes, je les défausse. Non, tu les enlèves de ton paquet, quoi. Et ça dérange même les joueurs qui ont l'habitude de ça.
C'est des petites finesses justement qui cassent en fait la mécanique classique du deck building. Surtout qu'on c'est aussi lié à un déplacement de personnage. On va se déplacer tout au long de notre vie, et on va choisir vraiment la carte que l'on souhaite. Et il y a des cartes qui permettent de mettre des pouvoirs semi-permanents, ce qu'on appelle les cartes évanescentes. Il y a des choses qu'on met en réserve. Comme tu dis, voilà, à chaque fois qu'on va se réincarner, on va perdre des cartes. Donc en fait, on construit pour déconstruire, pour mieux reconstruire derrière. Ouais. Et c'est vrai que in fine, en fait, ça donne un... Alors, je vais pas dire un nouveau souffle, hein, c'est très pompeux, mais ça change un peu des habitudes de ce deck builder.
Ça colle en plus extrêmement bien, la thématique colle extrêmement bien, mais la mécanique ou l'inverse. C'est par exemple, effectivement, quand tu meurs et te réincarnes, tu oublies des expériences de vie, tu te rappelles pas ce que tu as vécu, évidemment, et donc tu rends des cartes d'expérience au jeu. Et en plus, comme disait Miguel, c'est effectivement l'évolution au fil du jeu. Tu découvres le plan tactique ou stratégique du jeu en te disant, effectivement, les amulettes disparaissent à droite et gauche, donc il y a des cartes qui me sont moins utiles si j'élimine le facteur deck building et donc le facteur action de la carte. Et à ce moment-là, je peux me débarrasser de cartes. Et donc, j'améliore mon jeu tout en débarrassant de cartes. Et donc ça, c'est effectivement novateur, on va dire.
Donc, c'est un jeu qui est passé par la plateforme Kickstarter. Vous avez fait une belle levée de fonds, un peu plus de 35 000 euros, je crois, c'est ça?
Ah, mais il y a des enquêtes, en fait. Ouais, ça bosse!
900 contributeurs.
Et moi, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un milieu très professionnel.
comment s'est passé le choix de cette plateforme? Pourquoi avoir décidé de passer sur Kickstarter?
C'est l'international.
C'est l'international, par rapport à un Ulule.
Ouais. Là, au moment où on se parle, je pense que les dernières boîtes sont en train d'être livrées en Asie et en Australie. Voilà. Voilà, États-Unis, Canada, ça vient d'être fait avant le festival. Donc là, on est encore sur la fin de la vraiment du
première
du,
édition.
De la première édition Kickstarter.
Et pourquoi un financement participatif du coup? C'était C'était plus simple à...
C'était impossible sans être, sans avoir de réseau, sans être connu dans le milieu, sans avoir jamais fait de jeu ni d'édition, de se présenter face à, je dirais déjà, un fabricant, il va te dire, bah, fais un chèque. Devant un distributeur, en lui disant, bah, il me faut un chèque pour payer le fabricant, t'es gentil, tu sais quoi ton jeu, tu sors d'où, tu montes un proto, c'est bien, mais ouais. Qu'est-ce que ça va donner une fois fini? Parce que l'édition, c'est un vrai métier, c'est technique.
Ouais.
Du coup, bah, le moins, c'était pas vraiment pas pour éviter les boutiques, au contraire, puisque je travaille dans une boutique, donc voilà, c'était vraiment pour donc toute la campagne, on a bien précisé aux boutiques, voilà pourquoi on le fait, c'est pour lancer la société en fait, ouais, et ouais. Le jeu ça va vous permettre, nous l'idée que le jeu, c'est que le jeu soit en boutique aussi. Bien sûr, vous nous avez aidé à sortir le jeu et à créer la société. Donc voilà les cadeaux. Donc on s'est mis en short quoi. Vraiment tout ce qu'on a offert à travers le Kickstarter, ça nous a coûté. Enfin je veux dire, on n'a pas gagné d'argent. Ouais. C'était pas le but de toute façon.
Ouais.
Ça a permis en fait d'être crédible dans le milieu professionnel du jeu et d'être crédible auprès de banquiers. Parce que tu dis à un banquier, bonjour, prête-moi 30 000 euros pour faire des jeux. Il dit des jeux vidéo? Non, des jeux de société. Des jeux de quoi? C'est, il faut de l'argent pour faire des jeux de société. Ça existe, ça gagne des sous. Enfin bon. Et donc du coup, tout de suite après le Kickstarter, le banquier il a vu les chiffres rentrer, il a dit ah ok, donc ça génère. Du coup, le fabricant sait combien. Ok, donc du coup, si vous vendez après, ok, paf, voilà, on vous prête de l'argent pour vraiment stabiliser l'entreprise, en tout cas sa trésorerie, et pour pouvoir faire d'autres jeux en fait. Voilà. D'où le Kickstarter, et c'est pour ça que la livraison dans les boutiques était très importante pour nous.
Ouais.
On vous donne de l'argent les boutiques pour que vous preniez le jeu en livraison, comme ça vous recevez le jeu, vous donnez vos trucs, c'est donnant quoi.
Très bien.
Et justement,
vas-y.
Vous parlez de crédibilité au niveau du public et des banques, mais au niveau du public justement, vous étendre sur un premier jeu avec un rayonnement international. Ça vous a pas fait peur dès le lancement? Enfin, il y a quand même
on vient du Périgord, hein, il y a pas grand chose qui nous fait peur.
Non, parce que Kickstarter, beaucoup s'y essayent, il y en a pas mal qui s'y cassent les dents aussi, parce que c'est quand même un vecteur très com, enfin, dans le sens où le jeu est pas testable par les gens, donc faut mettre le paquet un peu sur les illustrations déjà. Il y a l'investissement, elle se fait pas au même endroit qu'une édition classique. Comment vous avez géré ça, surtout pour une première expérience?
En fait, on l'a géré en amont, c'est-à-dire que on était déjà à Cannes l'année dernière pour montrer un produit quasi fini, pour justement montrer aux gens ce qu'ils allaient voir, ce qu'ils allaient pledger, etc. Et surtout, juste avant et pendant et encore juste après la phase de financement participatif, on a fait les festivals, les salons. Alors effectivement, à l'étranger, ils ne peuvent pas voir le produit, mais
Miguel est très fort en com.
Voilà, on a fait une page. On parlait d'illustration. On a fait une page vraiment, à mon sens, très crédible.
Donc Mireille, merci encore.
Voilà, au niveau d'illustration, on a traduit les règles tout de suite. Donc voilà, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en flamand, et j'en oublie sans doute quelques-uns. Donc voilà, comme on disait au début, on a essayé de faire ça de façon très pro, pour que les gens puissent adhérer. Après, clairement, pour nous, l'international, c'était du bonus. Mais passant par Kickstarter, ça aurait été dommage de fermer cette porte-là pour le coup. Et on n'est pas mécontents. Alors évidemment, on n'a pas de recul, hein, mais on voit que beaucoup de projets se cassent la gueule aussi. Enfin, quand je dis de projets, des petits projets, petits dans le sens comme nous, gens pas connus. Hein.
Ouais.
Je parle pas du contenu. Hein.
Mais même des projets professionnels d'éditeurs déjà installés depuis longtemps, qui sont rodés, etc., qui se plantent. Donc on était quand même pas super fiers, tu vois, on était là, quand même, lui s'est planté, pourtant ça ressemble beaucoup à nous. Voilà. Bon, par contre, on avait de suite repéré les boulettes qu'il avait fait dès le départ.
Ouais.
Et du coup, ça nous a aidé. Ok, on fait pas la même, tu vois, on fait pas, voilà.
Parce que, le risque de Kickstarter, c'est qu'il y a quand même un investissement de départ avant de toucher justement la levée de fonds.
Oui.
Et du coup, ça, faut pas se planter, quoi.
Ben, on était plusieurs, on a vidé les poches, tu sais, on a braqué la grand-mère.
On a vendu quelques truffes, quelques foie gras et quelques cèpes.
J'ai pas payé mes impôts depuis 10 ans. Bon, enfin, tu vois,
Oui, mais effectivement, Mais après, on a été aussi, si vous avez suivi un peu la campagne, au départ, nous, on demandait 7000 euros, donc, c'est pareil,
modéré, quoi.
Assez proche des gens. Enfin, je dirais, on a utilisé la plateforme de financement participatif. Au sens premier du terme, vraiment il y avait pas d'histoire de précommande, c'était pas de la com à outrance, même si évidemment on a utilisé la com, mais l'idée c'était vraiment on a un projet, nous on y croit, si vous y croyez aidez-nous. On était vraiment dans le sens premier du truc, Et là, clairement, bah, sur d'autres jeux, c'est pas exclu qu'on repasse par cette plateforme, quoi.
Ouais.
Parce que pour certains jeux qui vont demander un investissement certain, bah, pour l'instant, on sera sans doute obligé de repasser par cette plateforme. Ouais. Après, on se dit que bon, on a été crédible une fois, voilà, pourquoi pas essayer une seconde expérience à ce niveau-là, quoi.
Tout à fait. Là, vous avez un deuxième jeu dans les besoins, c'est ça,
ouais,
qui s'appelle Camille?
Camille, tout à fait.
Qui est présenté au festival.
Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts.
Vous nous en parlez un petit peu, et puis est-ce que vous comptez repasser par un financement participatif?
Ah ben, celui-là, non, du coup. Non. Parce que c'est pas justifié de passer par une plateforme de financement. Donc, ça sera directement une distribution boutique, parce que bon, on a suite, on va dire, au succès de Kickstart de Samsara, on a eu la chance d'avoir un distributeur qui a accepté de prendre des périgourdins dans son équipe.
Donc il va le regretter, il va le regretter.
Voilà, c'est Pixie Game, c'est Pixie Game qui nous distribue.
Commence déjà à le regretter.
Et donc bah voilà qui regarde nos futurs jeux et voilà, donc Camille qui est un jeu de cartes hein, un jeu traditionnel japonais à l'origine, ne justifie pas un financement participatif quoi.
Mm-hmm. Et justement la rencontre avec Pixie Game, ça s'est fait comme vous disiez via le flot de la vague.
Alors là, ça c'est mon grand pouvoir de séduction. L'année dernière,
non, c'est privé tout en humilité.
Tout le temps, c'est 100% mon karma les gars. Non, c'est que je suis un psychopathe à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'année dernière, je suis arrivé à Cannes, j'ai dit aux gars, vous allez pas me voir sur le stand parce que je vais chercher un distributeur et je vais trouver un distributeur.
Ouais.
Mais je vais, ils étaient là dans la crainte, il va nous trouver n'importe quoi, n'importe qui, tu vois, il va prendre le premier Clodo qui passe, qui peut distribuer des jeux. Non.
T'as sympa pour les Clodo, distributeurs.
J'en connais pas, mais bon, j'ai pas trouvé. Mais,
ah d'accord.
Mais non, voilà. Donc du coup, c'était la guerre parce que j'avais réussi à obtenir quelques rendez-vous.
Ouais.
N'étant pas connu, c'était déjà tu vois le truc exceptionnel et c'était l'enfer.
À ce moment-là, le Kickstarter n'était pas lancé encore. Donc,
alors donc on
pas
était.
Dire, regardez.
Voilà, on était connu sur des salons qui font 1000 entrées dans notre coin, tu vois à peu près. Donc pas connu du tout du monde du jeu. Et du coup, j'ai donc les quelques rendez-vous, c'est bien, mais si tu veux systématiquement à chaque rendez-vous, je disais bon, qu'est-ce qui existe d'autre comme distributeur à part vous? Il y a ça, j'en connaissais bien sûr une partie, mais je pouvais en oublier. Vous connaissez un contact chez ce distributeur-là, quelqu'un que je pourrais appeler ou quelqu'un que je pourrais aller voir? Et c'est franchement très emmerdé, tu vois, de répondre, de dire, ton jeu est quand même pas mal. Est-ce qu'on prendrait pas une boulette si je te le refile au voisin? Et en fait, ils ont joué le jeu parce que c'est un milieu très très ouvert, très passionné. Donc, s'ils sont pas sûrs de le prendre, pourquoi le bloquer à quelqu'un d'autre qui lui le prendrait, enfin, etc. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et j'ai harcelé Johan Laurent, par exemple, de BlackRock. Harcelé gentiment, bien sûr, mais s'il écoute, c'est une private joke, mais je l'ai chopé entre deux rendez-vous. Je le surveillais de loin, en fait, tout en mangeant mon sandwich. Et j'ai dit, il m'avait dit, entre deux rendez-vous, je te reçois, mais je sais comment ça se passe. Ouais. Tu te lèves, t'as oublié que t'avais dit ça, tu pars dans une autre direction. Du coup, j'étais vraiment à l'intersection et il m'a vu, il a fait... Ah, il m'a chopé. Non, enfin c'était un exemple. Mais Pixie Games, ça a été vraiment tout de suite. Mais vous êtes comme nous quoi. C'est-à-dire bon feeling, vous êtes comme nous. Ils bossent de leur côté. C'est quatre associés qui bossent de leur côté. Ils peuvent pas être salariés à plein temps de Pixie parce qu'ils ont déjà leur taf et que ça. Enfin voilà, tout de suite ça a été bon voilà le karma quoi. C'est fait comme ça. Et ils m'ont très bien reçu et ils ont tout de suite dit oui quasiment. Le lendemain ils ont dit si vous avez une perle quoi. Et puis voilà. Et d'autres après des éditeurs, distributeurs m'ont dit on va le prendre. Ah les gars,
trop tard.
Écoutez, c'est bon. Gentil.
C'est trouvé.
Mais je pense que on va préférer travailler avec Pixie. Voilà. Okay. Bon, après bon, tout le monde travaille très bien.
Et avec justement tout cet engagement et vous suivez le flow comme vous dites, mais vous avez quand même un engagement assez fort sur de la production européenne avec une démarche. Avec
ils vont vraiment sortir tous les dossiers quoi. C'est énorme.
C'est intéressant.
Avec des associations l'association Planète Urgente qui plante du coup des arbres avec des levées de fonds.
C'est
et ça. Des
choses comme y a ça, pas, voilà. Y a pas, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas énormément d'éditeurs qui ont cette démarche là. Il y a les jeux Hopla qui ont une démarche très forte. Scorpion Masqué un peu dans une moindre mesure mais qui redistribue un peu des recettes pour planter des arbres etc.
Ouais.
Pourquoi cette démarche et ça vous tient à cœur particulièrement?
Après voilà, nous on vient de Dordogne hein, c'est les forêts, c'est la nature, c'est les arbres et tout ça. Donc c'est quelque chose qui nous touche.
Ouais.
Et déjà très vite pour nous, alors en plus par rapport à la thématique de notre premier jeu de Samsara, Pour nous, c'était difficilement concevable d'aller en Chine le faire produire, quoi.
Ouais.
D'autant plus que moi, mon métier, en fait, c'est logisticien et je sais tout ce que ça implique.
Bilan carbone, tout ça.
Voilà. Donc déjà, ça, c'était à la limite la première démarche. Essayons de le faire alors, initialement en France, mais ça s'est avéré compliqué. Donc on a dit au moins en Europe, et on dit ben qu'est-ce qu'on peut faire si on fabrique en Europe pour compenser en fait voilà le tout ce qui est carbone, etc. Donc ben tout simplement voilà, on a regardé les différentes associations qui existaient à ce niveau-là et on s'est dit ben pour chaque boîte vendue de Samsara, on prélèvera 10 centimes. Alors ça paraît ridicule et dérisoire, hein, mais c'est quand même, pour un éditeur, 10 centimes, c'est quand même pas rien.
Ouais.
Et en fait, on prélève 10 centimes sur la boîte, et donc à la fin, ben, on reverse à Planète Urgence, qui, là pour le coup, à chaque fois qu'on lui reverse un euro, replante un arbre. Et ouais. En fait, c'est ça, on va le faire pour tous nos jeux. Alors selon, ouais. On fait un espèce de petit calcul hein, par rapport à la taille de la boîte, etc. Et on va le faire à chaque fois parce que c'est quelque chose que quand t'es une personne, enfin individuellement, c'est très compliqué de rentrer dans ces associations, de replanter des arbres, etc. C'est généralement des grosses compagnies qui clairement font ça pour avoir
achète un label en fait.
Ouais. Voilà, ouais.
Bonne conscience. Quoi.
Bonne conscience. Mmh. Et puis bon, payer moins d'impôts, etc. Nous, c'est pas du tout le cas parce que voilà, on donne pas.
On paye pas d'impôts.
On aimerait bien planter beaucoup d'arbres, hein, parce que ça voudrait dire qu'on vendrait beaucoup de boîtes. Donc,
ça viendra
mais
peut-être.
Mais voilà, donc on est pas du tout au niveau des actions. Mais ça nous paraît normal. Enfin, c'est toujours dans cette démarche aussi bon ouais. Karma, quoi. On n'est ouais. Pas, voilà.
Tout à fait.
Très bien. Dernière petite question sur le salon. Vous faites du sourcing un peu? Vous rencontrez des auteurs? Vous avez des rendez-vous? Ce genre de choses? Ou c'est plutôt, comme sur les jeux qui sont à venir?
Je crois que les auteurs, ils ont vu aussi qu'on était bon karma.
Ouais.
Ouais, c'est ouais. Ça. On a été, alors je pense que c'est pareil pour tous les éditeurs, hein, mais on a été envahi effectivement de demandes un petit peu avant le salon. Bon, régulièrement, toute l'année, on reçoit des mails où on croise des auteurs sur des festivals. Hein. Mais Cannes, particulièrement, ouais. C'est la niche, quoi, pour les auteurs. Ils savent qu'il faut y aller. Quand ils veulent vraiment proposer un jeu. Et donc, on a reçu énormément de mails juste avant. Et c'est simple. En fait, j'ai dit à toute l'équipe, entre tous les rendez-vous que j'ai d'auteurs, plus tous les rendez-vous que j'ai de professionnels, plus que tout ce qui va arriver en plus quand il y aura entre deux rendez-vous, tu vois,
ouais.
Vous me verrez pas. Et effectivement, c'est le cas. J'ai rencontré vraiment de super auteurs et des super jeux. J'ai eu plusieurs... Pas ouais, c'est bien. Non, plusieurs waouh, tu vois, dans le sens ah ouais, là il y a un truc quoi. C'est très marrant parce que tu as des auteurs qui arrivent qui ont travaillé 4 ans sur le truc, c'est léché, c'est machin, etc. Mmh. Et t'en as qui arrivent qui te disent ah non mais ça fait un mois que je machin et tu dis
déjà génial.
C'est déjà génial quoi, voilà. Donc c'est bon. Donc on a ramené dans notre escarcelle un nombre prohibitif de prototypes. parce que le discours est clair avec l'auteur, c'est vraiment, écoute, voilà, je viens de tel milieu, donc tu vois, moi, c'est comme ça que je bosse, voilà. Et, ouais. Et l'auteur, il me regarde, il fait, ouais, on m'a jamais dit ça chez des éditeurs, tu vois.
Mais c'est ça qui fait la diversité voilà. Des éditeurs
si
aussi.
Si tu me donnes pas ton proto, je vais pas pouvoir vraiment travailler parce que si je dois l'imprimer, je dois le découper, je peux te dire que ça va traîner sur une étagère, ouais. Donc ouais. Je vais te mentir. Donc, tu me donnes ton proto, tu me donnes pas, je comprends. Mais si tu me donnes ton proto, dans 2 mois, je te dis oui ou non. Parce que en 2 mois, on aura le temps de nous d'y jouer, d'aimer ou pas, de dire ok à tel joueur bêta testeur, telle école,
des joueurs, ouais.
Voilà, tel etc. Parce qu'on a notre petit réseau par rapport à ça.
Normal.
Voilà, ok, quel est le retour? Et à ce moment-là, on lui répond et je dis surtout on te répond oui, bon, la question se pose plus, mais on te répond non. Tu sais pourquoi? On va te dire voilà ça nous a pas plu, ça il s'est passé ça avec tel joueur, tel truc, etc. Tel équilibrage. Maintenant, on a patience infuse. Mais si ça peut t'aider, t'as pas perdu 2 mois, quoi.
Ouais, bah, il y a la Pinesco de Pixie, du coup, hier, me vantait un peu votre finesse de jugement et de critique et en disant que les auteurs, qu'il espérait que les auteurs prennent vos commentaires parce que c'était toujours très pertinent et très, voilà, vous avez été un beau compliment de la Pinesco.
Ah oui, parce que ça, pour le coup, c'est
un dossier que je connaissais pas.
Ouais,
voilà.
Moi non plus.
C'est
ouais.
Rare qu'on arrive à me
piéger là-dessus.
Ouais, ouais. Ouais, il me l'a pas dit, Chris.
Ah, non. Ouais. Et c'est non, vrai ouais. Que, ouais, c'est vrai que c'est important, en fait, de respect déjà de l'auteur. Première chose, bon. Et après, le fait de respecter un engagement. Après, bon, par exemple, sur Noël, on s'est blindé, il y a eu les vacances au milieu, et du coup, l'auteur, je l'ai appelé de suite en disant, on a 15 jours de, enfin, bref, bon, ça, c'est,
oui.
Voilà. Mais vraiment, le truc, c'est ça, c'est de, qu'il perde pas son temps. Et il nous envoie le proto, on lui paye, c'est l'expédition, on lui renvoie le proto, on paye l'expédition. Enfin, voilà, il faut aussi qu'il soit, c'est compliqué pour un auteur quand on voit les dépenses qu'ils font.
Ouais, c'est
et
bien.
Le, quel, combien de temps ça va mettre pour qu'ils récupèrent leur sous. C'est carrément.
Ouais, puis là, c'est très important pour un auteur, je pense, d'avoir, même s'il y a un refus, d'avoir un retour constructif et de pouvoir capitaliser.
On a un bon contact parce que, en fait, on est avant tout des joueurs. En fait, on est communs. Enfin, quand on regarde la création de la boîte d'édition, c'est n'importe qui peut le faire. Et en fait, on est dans l'échange permanent. C'est comme si je parlais avec mon pote de jeu, quoi. Et je parle à un auteur comme je parle à un pote de jeu. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, ils ont pas cet échange peut-être direct d'un joueur finalement. Nous, on voit d'abord ça en tant que joueur. Comme on nous dit, c'est quoi votre ligne éditoriale? Ben, on se marre parce qu'on en a pas, en fait. On dit juste, ben, nous, écoute, si le jeu nous plaît, on va envie de l'avoir version finie, donc on va le faire. Et si après, ben, nous, si ça nous plaît, si ça plaît à plein de gens, ben, tant mieux.
Ouais.
Mais à la base, très égoïstement, je dirais, on fait les jeux pour nous, quoi.
et c'est vrai qu'on a des contacts maintenant, très rapidement, en fait, très rapidement sur l'année et Cannes, bien sûr, mais et même les petits festivals, je reviens de la Cano. Tout petit festival. Mireille était membre du jury parce qu'il voulait un membre de jury féminin, éditrice féminin. Donc c'est Mireille qui s'est collée. Et sur la partie expert, effectivement, c'est pas sa tasse de thé. Elle comprend très bien la règle, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc je suis allé un peu l'aider. Et effectivement, du coup, on rencontre tout de suite les auteurs et on est tout de suite en avant-première. Et le truc, c'est vraiment de dire, écoute, ça va te servir. Toi, là, je pense ça, mais ce n'est que personnel. Et c'est beau de voir que les gens prennent des notes, les auteurs prennent des notes, et après, quand tu les recroises, ils disent, bien, toi, tu te rappelles, t'avais dit ça, c'était de la merde. Mais ça, par contre, c'était vachement bien. Et c'est génial parce que tu quelque part, on participe à leur bébé, quoi. Et puis c'est cool, quoi, si ça marche un jour pour eux, quoi. Voilà. Même si on peut pas le faire ou parce qu'on peut pas tout faire.
Très bien. C'est clair. Bon, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, un petit mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices?
Ouais, bah moi je serais bien resté une demi-heure de plus, mais bon, ça je suis un bavard.
Ouais, Christophe parle beaucoup et moi du coup je suis un peu sauvage, donc voilà. Bah,
c'est l'équilibre.
J'ai envie de dire.
Bisous à Mireille.
Voilà. continuez à planter les festivals, les petits, les grands, parce que même les petits, en fait,
sont intéressants.
Ça vient de là, quoi.
Vous avez une grosse présence en festival cette année avec Épinal, Happy Game, Alchimie du jeu, Ludinor et j'en passe encore.
Épinal, par rapport au Périgord, c'est pas la porte à côté, quoi.
On triche un peu. Hein.
On a un peu triché, c'est que en fait, je suis en train de développer un réseau d'ambassadeurs d'Ocaluda.
D'accord.
Donc j'attends généralement les personnes qui viennent me dire oh putain, vos jeux c'est une tuerie, votre maison d'édition ça a l'air d'être super, vous allez être super cool, vous êtes super.
Et en payant en foie gras, tu vois, ça
voilà.
Ça aide.
On peut avoir du foie gras sous le coude. Et donc du coup, ben à ce moment-là, je fais la proposition d'ambassadeur. Je dis, vous êtes dans quelle région? Voilà. Donc par exemple, Sophie et Anthony, je leur passe la bise, sont sur la région de d'Épinal.
Ouais.
Et elle organise notamment, enfin elle est parmi les organisateurs d'Épinal, le jeu de compagnie. Et elle m'a dit, ben moi si tu veux qu'on soit ambassadeur, mais je signe de suite. Bon, après elle a dit, attends, sous quelles conditions? Toi, non, on n'est pas esclavagiste, ce qui est clair. Par contre, on va lui envoyer, pareil. Pour prendre un exemple, dans la charte, on lui envoie tous les prototypes quand on travaille dessus. Du coup, elle est en amont, le passionné qui va pouvoir voir qu'est-ce qui va être édité plus tard. Donc ça c'est toujours un plaisir. On lui envoie bien sûr les PLV, enfin tu sais les kakémonos, les machins, les t-shirts pour les animateurs, tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir sur la région animer. Et après elle anime elle si elle veut, elle anime à son rythme et quand il y a un festival, si elle veut pas aller, elle peut pas, peu importe, elle nous aide juste à trouver un animateur local qui fera le taf, quoi, et qui est sympa et qui est dans notre idée, quoi. Et bien sûr une fois par an, ben on les invite au Périgord. pour quelques jours, parce qu'on va pas leur plomber leurs vacances non plus, et pour quelques jours manger, il faut voir, comme l'a dit Miguel, hein, puis discuter des futurs projets et puis passer un bon moment à faire des jeux d'autres éditeurs, parce que bon, il y a des très bons éditeurs en France, donc voilà.
Très bien. Bah merci à vous d'être venus.
Merci.
Bonne fin de salon. Profitez bien des dernières heures de ce festival. Tiens, je te laisse faire la conclusion.
Chères auditrices, chers auditeurs. Si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.